mecs ils ont tout, nous on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Oula, je sens que tu es prêt, Laurent, à lancer tout de suite cette émission. Vous êtes donc à l'écoute dessus du Canu Info de le premier de l'année. Nous sommes le jeudi 5 janvier 2023. Vas-tu bien, Laurent ?
Ouais, le premier de l'année pour l'équipe du jeudi, bien évidemment.
Bien évidemment. On vous rappelle, hein, les Canu Info, il y a des équipes différentes tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Voilà, et tout est bien. Vous pouvez écouter tout le monde, vous n'aurez pas forcément la même information, dites parfois la même information, mais dites différemment. C'est le but de ces émissions d'infos de la plus rebelle des radios, le 102.2. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi, très cher ami ?
Ah, c'est moi qui dois dire de quoi on parle.
S'il te plaît. S'il te
plaît. On va aller au Proche-Orient, on va parler de JO, je crois que ça veut dire Jeux Olympiques. On va parler de petits fachos à Lyon. Bon, c'est une tradition lyonnaise, l'extrême droite, mais on continue d'en parler justement pour lutter contre cette tradition. On parlera de flicage, donc notamment des gens qui se révoltent, des néocotinoïdes, de l'égalité des droits et surtout du manque d'égalité des droits des femmes et peut-être d'économie après. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du programme qui est chargé.
Oui, tout à fait. Pas beaucoup de sujets, mais certains un petit peu longs. L'info du jour, c'est quand même que M. Poutine a ordonné à son ministre, M. Shoigu, d'imposer un cessez-le-feu pour le 6 et le 7. C'est dans le cadre du Noël orthodoxe. Donc, ça sera du 6 janvier à midi au 7 janvier minuit. Bon, voilà. C'est ça de prix. Il faut dire qu'ils se sont pris un petit peu des trucs sur la tronche, les soldats russes. Du côté de Moscou, on dit que c'est leur faute. Ils n'avaient qu'à éteindre leur téléphone portable. Ce qui fait râler une partie de l'opinion politique. Ici, on appelle ça l'ultra-droite. Là-bas, on va appeler les nationalistes qui ne comprennent pas pourquoi l'État russe se met d'un seul coup à dire que c'est eux les nuls, les soldats, les andouilles de service. Bon, on vous rappelle que du côté de Moscou, on tente de rapatrier dans cette guerre soit des prisonniers. Hein, on a vu les retours des premiers prisonniers qui avaient été engagés sous la milice Wagner. Et puis aussi des gens qui sont sur les bords de cette Russie ni soviétique, ni impériale, mais malgré tout très autoritaire, ces gens qui sont au chômage et qu'on fait venir à la guerre, soi-disant pour désanifier donc cette Ukraine. Il faut dire que du côté de l'église orthodoxe russe, qui a toujours soutenu Poutine, on demandait ce cesser le feu. Du côté de l'Ukraine, on a dit que ben on n'en avait rien à faire. C'était la réponse.
Ouais, c'est bien.
Bah, ils disent, écoute,
de toute façon, ils se prennent des bombes tous les jours sur la gueule, donc une journée de plus ou de moins, ça change pas grand-chose. Ils vont avoir un peu de répit, mais effectivement, ils ont rien à attendre de leur ennemi, de leur envahisseur.
Alors, des proches de M. Zelensky, le président ukrainien, M. Podolyak, on a expliqué qu'il n'y aurait une trêve qu'après que la Russie ait quitté le territoire ukrainien. Voilà. Et puis, on a appris que le gaz était en baisse, le prix du gaz. Savez-vous pourquoi ? Bah, parce qu'il paraît que comme on consomme moins, du coup, ben, ça fait baisser le prix. C'est l'offre.
Et la demande, c'est le libéralisme, voilà. Le capitalisme.
Quoi. Ah, c'est du capitalisme. Donc, sachez que vous avez moins mis votre chauffage. Et ben, que du coup, on est revenu à des prix avant guerre Ukraine. Donc, avant février 2022.
Par contre, les 15%, ils sont quand même montés, là, sur le gaz.
Ah oui, non mais ça après, que tout augmente. Nous en sommes bien conscients et conscients tous les deux. Mais voilà, c'est intéressant quand même, hein, l'offre et la demande, hein, le capitalisme. Donc le gaz, tant mieux que ça baisse maintenant, puisqu'il y a eu quand même une explosion en juillet dernier, il faut s'en souvenir. C'est marrant, du coup vous êtes moins chauffés, vous avez eu un peu plus froid, mais du coup, maintenant vous allez pouvoir en profiter. Et puis parce que quand même 2023 va être une année absolument magnifique. Je trouve que l'humanité ne cesse de se réinventer. Et ne cesse de réinventer des petits objets. C'est le cas. Vous avez entendu parler de ChatGPT, ce machin qui permet de créer des textes tout seul. C'est-à-dire que vous posez une question et puis ce ChatGPT, je vous le dis à la française, ce chatbot d'OpenAI ça vous permet de créer des textes. Et donc il y avait cette grande inquiétude de dire que d'un seul coup tous les élèves du monde et de Navarre, tous les lycéens et les collégiens n'allaient donc jamais plus rien écrire et allaient donc tous trafiquer leurs textes en allant donc demander à un programme informatique de rédiger des textes à leur place. Certains relativisent hein, quand même un peu cette démarche unanime de la part des élèves et des étudiants d'une manière générale. Mais c'est vrai que ça peut écrire un texte, ça pourrait écrire tous mes textes, vous voyez, à la place que je tente de vous expliquer des choses à l'antenne, ça pourrait tout m'écrire. Ou ça pourrait évidemment écrire hein, toutes vos lettres de vœux, par exemple, hein, pour cette bonne année. Et ben, il y a déjà un étudiant qui a développé un programme informatique pour traquer les plagiats. C'est pas mal quand même, parce que moi je trouve que l'humanité elle est chouette, on crée un truc pour te répondre, hein, créer des textes pour toi, en tout cas à la base c'est aussi pour t'informer, hein, mais c'est vrai qu'on peut s'en servir plein de choses. Et ben il a créé cet étudiant GPT-0, ce qui permet d'analyser un texte pour savoir s'il aurait été justement écrit par un programme informatique, ou comme disent certains et certaines, une intelligence artificielle, ou est-ce qu'il aurait vraiment écrit et été écrit par un humain ou une humaine. Je trouve ça chouette quand même qu'il y ait une telle réactivité de la part des êtres humains dans ce monde.
Alors on va au Proche-Orient, en Israël et en Palestine occupée, puisque ce début d'année est un peu particulier. Le Parlement israélien, la Knesset, a entériné le 29 décembre dernier donc la création de ce nouveau gouvernement, avec un beau discours de Benjamin Netanyahou, donc fraîchement réhabillé en Premier ministre, qui a dit, je cite, pour attaquer un petit peu les opposants, « La défaite électorale ne signifie pas la fin de la démocratie, c'est l'essence même de la démocratie. » Alors là, il attaque les oppositions. Les systèmes démocratiques sont avant tout mis à l'épreuve par la capacité des perdants à accepter la décision de la majorité. Donc là, c'est en gros, bah maintenant vous avez perdu, vous fermez vos gueules. Voilà ce qu'il dit. Dans une vraie démocratie, les gens respectent les règles du jeu. Bon, la fin de sa phrase. Grosso modo, il dit aux autres, vous avez perdu les élections, maintenant nous gouvernons. On a ce qu'on appelle la dictature de la majorité. C'est une infime partie de la démocratie. Ce qu'il oublie, Benjamin Netanyahou, c'est que la démocratie, c'est plein d'autres choses. C'est la liberté de la presse. C'est, alors, pour Israël notamment, qui se revendique d'être un État libéral, c'est-à-dire avec des libertés, c'est ça aussi. C'est notamment la défense du droit des minorités, la lutte contre les inégalités, tout ça. Tout ce qui construit une démocratie. C'est pas simplement le fait de voter une démocratie. On rappelle que le vote existait avant les démocraties. Hein, les monarchies permettaient le vote. Lier la démocratie au vote, c'est toujours un petit peu compliqué. La démocratie, c'est plus compliqué que le vote. Ah, s'il n'y a pas le vote, il n'y a pas de démocratie, vous me direz. Mais dans l'autre sens, c'est pas la seule chose importante. Et pour aller plus loin dans sa vision un peu pervertie de la démocratie, il a prévu, Netanyahou, de taper sur le reste, justement, de ce qui fait la démocratie. Notamment au moment où on s'étant associé à des gens qui vont détruire le système judiciaire en particulier et le système, surtout la justice. En fait, je pense que c'est ça qui va prendre le plus assez rapidement. D'ailleurs, il a nommé Yariv Levin, qui est donc au ministère de la Justice, hein, pour un peu tout détruire. Il y a pas que lui, je vais reparler tout à l'heure de celui que j'ai déjà parlé beaucoup, mais qui va avoir un rôle important, le haut commissaire à l'occupation aussi, Bezalel Smotrich, qui a dit, je cite, qu'il voulait régulariser et renforcer la mainmise sur notre terre. Alors pour cet extrémiste juif, notre terre, c'est l'ensemble de la Palestine, bien évidemment. Donc voilà ce qui nous attend. Alors il y a bien sûr Itamar Ben-Gvir, dont j'ai déjà pas mal parlé dans cette émission, qui va gérer notamment la police aux frontières et qui va la transformer en milice ultranationaliste. Hein, c'est son objectif. Grosso modo, les Arabes, les femmes, les membres de la communauté LGBT, les organisations de gauche, les médias, la justice, tout ça, ça sera les premières cibles de ce gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, un gouvernement ouvertement d'extrême droite. Et ça a déjà commencé la pagaille, dirons-nous, puisque ce fameux ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu mardi matin sur l'esplanade des mosquées en guise de provocation. Alors, on rappelle, c'est compliqué, l'esplanade des mosquées. C'est un lieu saint pour les musulmans. C'est le troisième lieu saint de l'islam, après la Mecque et Médine. C'est donc un lieu très important, qui est géré d'ailleurs par la Jordanie. Et les musulmans ont droit d'y aller n'importe quand, hein, pour aller justement à la mosquée Al-Aqsa. C'est aussi, historiquement, dans cette partie-là où est construite la mosquée Al-Aqsa, un lieu saint aussi pour le judaïsme. Ça s'appelle le Mont du Temple. Un temple qui n'existe plus, hein, qui a été détruit il y a bien longtemps. Et donc, Itamar Ben-Gvir, en tant que suprémaciste juif, a tenté encore de lancer, dès le départ, dès son premier jour quasiment, une nouvelle guerre, alors de religion et surtout de nationalisme, hein, puisque le but c'est de virer les Arabes, mais pas tant parce qu'ils sont musulmans, mais juste parce qu'ils sont arabes et qu'il veut épurer, hein, c'est ça, il fait partie de ces groupes de suprémacistes juifs qui ont ce terme d'épuration souvent dans la bouche. Et il a expliqué son geste. Il a dit: le gouvernement israélien dont je suis membre ne se soumettra pas à une organisation méprisable et meurtrière. Le Mont du Temple est ouvert à tous, et si le Hamas pense que ces menaces me dissuaderont, il doit savoir que les temps ont changé. Il y a un gouvernement à Jérusalem. Donc là, pour lui, la seule problématique, c'est le Hamas. Alors, c'est facile, hein, on est d'extrême droite, on dit que notre ennemi, c'est un autre groupe d'extrême droite, mais de l'autre religion. C'est ce qu'ont voulu hein, les religieux en Israël et en Palestine, en faisant monter les religions, grosso modo, aussi bien l'islam radical que les juifs radicaux. Et lui, il renvoie ça dos à dos, il est content, et il va se battre, et il va gagner ou pas, mais en tout cas, il va tout faire pour gagner. Voilà, ce qu'il oublie de dire quand même, c'est que le Jérusalem est occupé illégalement en termes de droit international, et que ça gêne pas que le Hamas, ça gêne aussi tous les autres musulmans qui adhèrent pas forcément au Hamas. Mais voilà. Alors cette provocation, il l'a faite de manière un peu particulière. Il est arrivé, il l'a faite en courant quasiment. Il est resté moins de 15 minutes. En fait, c'était vraiment de la provoque, mais on sent le mec pas courageux finalement, alors qu'il était entouré de membres de forces de sécurité israéliennes. Du coup, en dehors de son action de provocation, ça a fait réagir de manière ironique, voire ça s'est beaucoup moqué dans la presse palestinienne et la presse arabe, qui quand même a qualifié l'action de assaut ou d'intrusion, mais ça s'est bien moqué, vu qu'il semble l'avoir fait quasiment en courant. Alors ça a été aussi critiqué par les pays occidentaux, qui savent très bien les enjeux qu'il y a sur l'esplanade des mosquées, et que si on veut refaire démarrer la guerre en instrumentalisant les religions, ce qu'il adore Ben-Gvir aussi bien que le Hamas d'ailleurs, et ben c'est bien parti. Voilà. Il y a la Jordanie notamment qui possède d'ailleurs les terres, hein, souvent sur lesquelles sont construits certains lieux saints et certains quartiers palestiniens. Qui gère ces lieux saints de Jérusalem, a dit que ça sentait l'escalade. Eh ben oui, ils n'ont pas tout à fait tort. D'ailleurs, lundi soir, un groupe religieux, maintenant ils en profitent, les groupes religieux, a demandé au ministre de la Sécurité nationale, donc à ce Ben-Gvir, l'autorisation d'effectuer le fameux sacrifice rituel de la Pessa, qui doit être fait sur le mont du Temple. C'est censé être fait au printemps prochain. Alors... En dehors de l'acte barbare de sacrifier un agneau juste pour une question religieuse, c'est quand même assez. Ça montre le peu d'évolution de ces gens qui sont quand même des Homo sapiens comme vous et moi. Mais c'est un peu compliqué quand même de les mettre à la même échelle quand tu tues des animaux juste pour le plaisir de tuer des animaux, hein, enfin pour faire plaisir à l'invention que t'appelles Dieu. Alors ils demandent ça. Alors ils demandent chaque année ce groupe religieux qui s'appelle Retour au Mont. Donc retour au mont, c'est-à-dire voilà, on vire les musulmans de cet endroit-là et ça redevient notre place à nous. Jusqu'à maintenant, ils le font chaque année, ils obtiennent rien parce que les autorités israéliennes sont pas débiles non plus et elles ont bien conscience du côté provocation que ça ferait et que ça ferait repartir les violences dans tous les sens. Mais le gouvernement a changé. Du coup, ils sont remontés à l'assaut et on sait que Ben-Gvir est assez sensible à ça puisque lui-même il a tenté d'accomplir ce sacrifice animal de la Pessa. Et qu'il a aussi d'ailleurs défendu des militants qui avaient tenté de faire ce sacrifice à cet endroit-là aussi. Donc voilà. Alors en dehors du fait que c'est complètement imbécile de considérer des lieux sains et pas sains. Enfin, voilà, c'est juste un bout de planète, hein, on rappelle. Là, ce que ce ministre commence à faire, le gouvernement est en place depuis 3 jours. 4 jours, et lui il arrive, il commence à faire de la provoque. On sent bien que ça va partir en guerre, et on sait que c'est les Palestiniens qui souffriront le plus, bien évidemment. D'ailleurs, ça a donné des idées à d'autres juifs radicaux, et on a vu, il y a une belle vidéo qui a filmé ça, deux juifs issus donc de ces mouvements nationalistes et suprémacistes arrivés dans un cimetière. Le cimetière protestant de Jérusalem et détruire tout ce qu'il pouvait. Ça a été filmé, donc voilà, tout le monde sait et qui sait et pourquoi ils l'ont fait. Alors, ça démontre une chose, c'est que ces suprémacistes, comme tous les suprémacistes de la planète, ils n'ont pas un seul ennemi, ils ont tous les autres comme ennemis. Donc là, ils s'attaquent aux chrétiens. Voilà. Voilà. Alors, les dommages sont importants, hein, 94 000 euros en estimation. C'est pas ça qui est important. C'était l'acte symbolique pour essayer de montrer qu'ils sont les maîtres chez eux et que c'est ça qui est en jeu. Et puis, pour terminer dans ces tristes informations israélo-palestiniennes, c'est Karim Younis dont on va parler maintenant. C'était le plus ancien prisonnier palestinien dans les geôles israéliennes. Alors, heureusement pour nous, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort, mais il a été libéré. Donc après 40 ans de prison, il a été arrêté en janvier 1983. Donc voilà, il est libéré. Alors, l'occupant israélien a tout fait pour qu'il ne soit pas fêté. D'abord, ils l'ont pas annoncé, en fait. Il est libéré sans préavis. Ensuite, ils ont fait une descente juste avant dans le village qui s'appelle Ara, sa ville natale. Hein. Ils ont confisqué tout ce qui pouvait servir à une cérémonie d'accueil, donc les drapeaux, les trucs de fête, enfin tout ça. Et ils ont interdit à la famille de faire une fête, de célébrer sa libération, de chanter, de tout ça. Voilà, donc c'est cette police israélienne d'occupation, bien que ce soit une bonne nouvelle, elle a empêché que les Palestiniens prennent, enfin, fêtent cette bonne nouvelle. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Karim Younis, après 40 ans de tôle, soit enfin sorti.
Alors on va parler des Jeux Olympiques 2024, puisque bon, nous avons pu noter de notre côté quand même que boycotter cette Coupe du Monde de football c'était pas très évident pour un certain nombre de personnes, surtout quand l'équipe de France est arrivée en finale. D'un seul coup, on a vu des revirements politiques assez francs quand même, il faut le dire. Mais il reste quand même, en fait, quelques possibilités pour vous de boycotter ces Jeux Olympiques 2024, comme l'appellent plusieurs collectifs en France. Alors, on a les collectifs, évidemment, OJO 2024, qui sont là avant même que Paris ait été choisi donc pour accueillir ces Jeux. Ça va être magnifique, vous allez voir. Donc, nous avons appris grâce au Canard Enchaîné de ce mercredi 4 janvier que Île-de-France Mobilité, l'IDFM, comme on dit, c'est l'autorité donc présidée par Madame Pécresse, n'avait pas eu de candidat pour son appel d'offres pour le transport des 200 000 personnes accréditées pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, ça n'a pas marché, nada.
C'est la cagade.
Exactement. Alors, l'idée, c'était quoi? L'idée, c'était de mettre à disposition des cars, des bus électriques et au biogaz, parce qu'on est quand même sur des Jeux Olympiques peinture vert pomme, hein, il faut quand même le savoir. Donc, il faut que ce soit propre. Donc, l'idée, c'est donc de prélever, hein, c'est le terme qui est employé, des bus et des cars dans la flotte francilienne. Pour faire se balader les athlètes, les membres des fédérations sportives, et puis les organisateurs, hein, les journalistes, enfin tout un tas de gens. Tout ça pour aller dans les salles de presse, sur les lieux de compétition, d'entraînement. Enfin bon, voilà, il faut donc balader tout ça, sur les lieux d'hébergement, bien évidemment, aussi. Donc ça fait du monde. Il y a eu un appel d'offres qui a donc été lancé. Personne n'a répondu. Alors, si donc on en croit ce que nous raconte, et on va les croire le Canard Enchaîné, hein, on va croire ces journalistes, c'est un appel d'offres qui avait été lancé le 28 juillet dernier, il y avait 3 lots, tout ça pour un montant total de 36 700 000 euros, et l'appel d'offres a été déclaré infructueux. Donc on a appris que Île-de-France Mobilité avait lancé un nouvel appel d'offres le 21 décembre dernier.
Avec moins de contraintes.
avec moins de contraintes.
En fait, les contraintes, c'était sur les bus doivent être à l'heure, tout ça.
C'est effectivement. Ce deuxième appel est pour un montant un peu moins important, 33 900 000 euros. Vous avez, si vous êtes une société avec, vous avez envie, vous pouvez vous lancer jusqu'au 20 janvier prochain, parce que quand même, là, il va falloir avancer dans les procédés et procédures pour ces JO 2024. Il faut savoir que donc c'est le comité d'organisation, ce qu'on appelle le COJO, qui met en place cette procédure, qui doit rembourser Île-de-France Mobilité une fois que tout ce réseau éphémère est mis en place, parce que c'est vraiment quelque chose de temporaire, mais il faut bien vous dire quand même que quand on va prélever des bus et des cars, il va bien falloir les trouver quelque part quand même. Donc peut-être sur votre dos, vous, parisiens et parisiennes, ou habitants de l'Île-de-France. Je sais pas, on va commencer peut-être à se poser quelques questions quand même. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est comme tu le disais, il y avait a priori un cahier des charges un peu trop important qui s'étalait sur plusieurs pages, a priori, et en particulier effectivement sur les pénalités, les amendes dues à des retards.
Et vu la circulation en Île-de-France, c'est a priori aucune entreprise a envie de prendre le risque, surtout qu'en 2024, ils n'ont aucune idée de l'état de circulation. Tout peut être bouché, et pas de leur faute, et ils pourraient ne pas amener les gens en temps et en heure, et du coup être obligés de payer des amendes. Du coup, ça a un peu réfréné les capitalistes.
Alors, j'ai appris par Île-de-France Mobilité que le calendrier sera respecté. Nous sommes dans les temps. Ben, bon courage jusqu'au 20 janvier, quand même, parce qu'il va falloir effectivement trouver des partenaires. Ces grandes compétitions, il y a toujours des problèmes maintenant, mais effectivement, il risque d'y avoir d'autres problèmes, c'est que derrière, il va falloir suivre pour le transport du quotidien. Donc, peut-être qu'il va falloir un petit peu se réveiller, effectivement, pour commencer à grincer les dents et se dire qu'il va y avoir un souci. Parce que quand même, il va falloir en balader des gens.
Plus surtout que s'ils prélèvent les bus sur la flotte existante, ils ne vont pas acheter des milliers de bus juste pour ça. Oui, les gens vont plus avoir de moins de transports en commun. Donc, il risque d'y avoir plus de gens en bagnole sur les routes. Donc, ça doit être bouché partout. Donc, je pense que c'est risqué de prendre ce marché.
Il y a quand même quelques interrogations, effectivement. Donc, première raison. Deuxième raison, je vous rappelle, c'est M. Darmanin qui avait mis le feu aux poudres en expliquant en octobre que, non, il n'y a pas à y avoir de culture pendant les JO. Sport, culture, c'est le sport qui gagne. Donc il avait mis vraiment toute la filière du spectacle un petit peu en colère, en disant, mais attends, comment ça mon ami, on va devoir arrêter de nos spectacles, nos festivals, t'y crois vraiment bonhomme? Donc du coup, il y a quand même une ministre de la culture qui tente de récupérer l'affaire, et en assurant surtout les gros festivals de cette capacité quand même à mener à bien leur programmation, parce que ces festivals, vous savez ce qui se passe, ils ont besoin de services de sécurité, qui après un risque ne sont pas assez nombreux pour assurer déjà les JO 2024. Alors si en plus il faut qu'ils assurent les gros festivals, ça va pas le faire. En plus de ça, on sait que sur les festivals, il y a aussi parfois des services de police. Donc tout ça posait souci à Monsieur Darmanin. Donc il y a quelques procédures en place. Les gros festivals ont ordre de se déplacer avant ou après.
En termes de date,
ou alors de lieu, cassez-vous, je veux dire, allez sur un autre territoire. Donc, on sent quand même les gros secteurs sont venus en avant. Par contre, pour les plus petits, ça va être plus compliqué, évidemment, de se battre. Donc, on a quand même les syndicats. Il y a des syndicats dans le spectacle, des entreprises du spectacle, qui sont en train de quand même continuer à monter au créneau pour quand même conserver leur droit d'exister en 2024. Mais c'est vrai qu'il faut le noter, comme le dit Auréliane Douche du syndicat des musiques actuelles, tout cela est trop discrétionnaire et aléatoire. Donc on verra qui peut gagner, certainement les gros, les plus petits iront se coucher. Et puis un dernier point, pour peut-être vous aider à boycotter, c'est tout ce qui va être mis pour répondre aux défis sécuritaires, comme j'ai pu le lire. Vous savez qu'il y a un projet de loi olympique qui a été présenté au Conseil des ministres. Ça devrait être voté, tout ça, là, sur le début de cette année. Tout ce texte, ce projet rendrait donc possible l'utilisation d'un système d'intelligence artificielle qui va permettre de détecter les mouvements de foule suspects, donc aux abords des stades, sur la voie publique et dans les transports. Il paraît que tout cela va être une expérimentation, ce qui veut dire que si ça se marche pour eux,
on va contrôler les populations.
Ça ne sera plus une expérimentation, mais ça pourrait rester. C'est bien ce qui inquiète un petit peu quand même certaines organisations, certains syndicats et certains collectifs, puisque tout ça est dit qu'il pourrait y avoir des risques de terrorisme, d'atteinte grave à la sécurité des personnes. Donc expérimentation. Comme ça, au moins, on verra. Donc là, l'expérimentation, elles seront autorisées par décret après avis de la CNIL. Super. Et tout ça va se mettre progressivement en marche. Alors, il paraît que la reconnaissance faciale n'est pas retenue dans ce projet. 2024, c'est pas tout de suite. On a le temps de voir ce qui pourra se passer. Mais bon, enfin, voilà, il va y avoir des scanners corporels. Si vous prenez l'avion, vous savez, il y a des trucs qui existent dans les aéroports. Et ben ça, ça va se mettre en place. Comme ça, ça évite les fouilles. Parce que encore une fois, il n'y a pas assez d'agents de sécurité. Donc tout ça est très compliqué. Donc ça évite de palper. Hein, la machine est toujours plus rapide. En tout cas, on sait que déjà ce projet de loi olympique va permettre au préfet de police de Paris d'avoir toute autorité pendant la période des Jeux Olympiques sur tous les départements de l'île de France. Et puis il y a tout un tas de sanctions qui sont mises en place avec ce projet sur la récidive, sur la violence en réunion. Donc tout ça met quand même un petit peu des échelons hein, dans la surveillance et le sécuritaire lors de ces JO. Voilà. Et puis il paraît que ça va pouvoir aussi permettre d'ouvrir plus facilement le dimanche. Parce qu'il y a super. Toujours le pognon quand même qui arrive.
Bon, on va rester dans le sport.
Allez.
Mais on va aller du côté des fachos.
Ouais.
Eh ouais, parce que alors, l'Olympique Lyonnais vient de recruter un mec pas très clean. Alors je prononce n'importe comment son nom, j'ai jamais entendu prononcer et je vais pas faire d'effort non plus. Il s'appelle Dejan Lovren, c'est un joueur croate. Et il s'est mis, il est connu pour avoir mis en avant ses idées d'extrême droite ces derniers temps. Donc c'est un international qui arrive à Lyon, enfin qui revient à Lyon puisqu'il était à Lyon avant, puis il a quitté Lyon il y a une dizaine d'années. Entre-temps, il a largement montré son soutien récurrent à la nostalgie Outachi. Alors les Outachi, on rappelle, en Croatie, c'est les collabos du régime nazi. On sait qu'il était nationaliste hein, déjà ce Lovren, mais en plus voilà, il est néo-nazi, du coup il soutient les Oustachi et tout ce qui s'est passé derrière. D'ailleurs, alors il y a plein de preuves de tout ça, on n'annonce pas comme ça gratuitement. Il y a des vidéos qui sont sorties, on le voit reprendre un chant fasciste qui s'appelle Zadom Spremni. C'est pas la première fois. Alors c'était avec l'équipe nationale croate et a priori l'équipe nationale croate est particulièrement nationaliste en termes de, enfin sur pour les joueurs. Ils ont chanté déjà plusieurs fois un truc qui s'appelle Jajedovac i Gradiska Stara, qui est donc un chant à la gloire des deux camps de concentration que les nazis ont créé avec les fameux Oustachi durant donc la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une autre vidéo aussi qui circule où on voit ce néo-lyonnais, on va l'appeler comme ça, qui effectue le salut militaire des Oustachi, qui est un salut inspiré du salut fasciste. Bon, bref, ce bonhomme, il a pas l'air très clean. Ce qui est marrant, c'est qu'il a dénoncé, il y a pas longtemps, l'intrusion de la politique dans le football. Il a dit, c'est mal, on doit pas mêler sport et politique. Ah, mais ça parlait pas du tout de ses idées, de ses chants nazis avec ses copains footballeurs. Pas du tout. C'est parce que, il défendait la Russie. Eh ben oui. Parce qu'en plus d'avoir été nazi, de défendre les idées de nazis, il aime bien l'autoritarisme russe. Ce qui est pas incompatible, a priori, pour ce croate. Alors, il a bossé en Russie au Zénith de Saint-Pétersbourg, un club de foot de là-bas. Lui, il a dit, c'est pas parce que la Russie a envahi l'Ukraine qu'elle doit pas participer au mondial. Enfin, voilà, il a défendu la Russie. Donc, c'est quand ça l'arrange que le sport doit être apolitique, mais quand ça vient de lui, et quand c'est d'extrême droite, le sport a le droit d'être politique. En fait, c'est les autres idées qui devraient pas avoir lieu. D'ailleurs, en plus, il est aussi très homophobe. Il avait fait un tweet en disant « Je viens d'annuler mon abonnement à Disney, dégoûtant Disney, boycott Disney ». C'est juste quand Disney avait annoncé qu'il défendait le droit des LGBT. Oui. Donc voilà, ce petit footballeur international nostalgique des nazis et de ses collabos anti-homosexuels et droits des LGBT, il vient d'être recruté à l'OL. Et ça n'a pas gêné les dirigeants de l'OL de le recruter malgré ses performances et ses liens avec l'extrême droite. Voilà. Alors, c'est pas la première fois que le sport se mélange aux idées politiques d'extrême droite, mais voilà, les dirigeants de l'OL ont accepté tout ça. Triste. Et puisqu'on parle de l'extrême droite à Lyon, vous savez que c'est une zone un peu particulière où l'extrême droite a beaucoup expérimenté et expérimente encore beaucoup. Alors des nouveaux autocollants sont apparus. Alors il y en a tout le temps. On a eu des tags dans le quartier au mois d'octobre. Là, les autocollants ont un peu plus fait réagir que d'habitude. Faut dire que ça a été collé dans le 7e, juste à côté du centre d'histoire de la résistance et de la déportation, le CHRD, donc vers l'avenue Berthelot, centre qui parle justement de la résistance au nazisme et à l'extrême droite de la collaboration de qui a eu lieu donc jusqu'à la défaite des nazis. Et ben ils ont fait un autocollant avec Klaus Barbie, hein, celui qui est surnommé le boucher de Lyon, avec une photo avec tous les symboles qu'on peut connaître chez les néo-nazis et l'extrême droite. On reprend la tête de mort de certaines troupes nazies, enfin, etc. Et ils ont en dessous, c'était écrit en gros, on est Lyon. C'est-à-dire que l'extrême droite à Lyon, bah, c'est des copains de Klaus Barbie et tout ça. Alors, ça a été pris en photo, ça a été bien déchiré, hein, les autocollants, je pense qu'il ne reste plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est sorti dans la presse et du coup, l'État a été obligé de réagir. Donc il y a le préfet, qui s'appelle Pascal Mayos, qui a dit qu'il condamnait ces symboles de haine et d'antisémitisme. Bon, ok. Il dit « L'État restera toujours engagé dans la lutte contre toutes les formes de haine et les groupes radicaux violents d'extrême droite. » Ok. Et la préfecture a annoncé qu'il poursuivrait, qu'il n'y aurait pas d'enquête et pas de poursuite. Ah, attends, on a l'air con. Alors, bien évidemment, la flicaille ne va pas non plus faire d'enquête. Hein, bah non, surtout pas. On se rappelle de la manifestation il y a quelques semaines, illégale des fachos, encadrée et protégée par les forces de police. Donc, il n'y a pas de souci. L'extrême droite reste finalement à Lyon un truc protégé, en tout cas non attaqué par l'État. C'est l'État, hein, qui est responsable de la sécurité à Lyon et de la justice, et c'est le préfet qui décide de rien faire. Comme d'habitude. Vous me direz, c'est ça la vie à Lyon avec l'extrême droite.
Eh ben, on va parler de la police et puis des anti-bassines. C'est bien parce que Libération a fait plusieurs articles pour parler des militants et des militantes anti-bassines. On a déjà parlé, hein, de ces bassines dans cette émission. Et c'est surtout intéressé aux méthodes de surveillance mises en place par la gendarmerie pour soi-disant officiellement retrouver ceux et celles qui auraient saboté, hein, des bassines au cours des manifestations en 2021 et 2022. Officieusement peut-être, plutôt pour réprimer quand même un mouvement qui a été un petit peu médiatisé quand même et qui trouve un certain écho sur certains territoires. Alors évidemment, chez nous à Lyon, c'est plus compliqué, hein, la bassine. Mais c'est vrai que dans certains territoires ruraux, il y a des vraies dissensions, hein, sur place entre des agriculteurs qui veulent absolument leur bassine.
C'est-à-dire continuer un modèle d'agriculture destructeur de la planète.
Et puis d'autres modèles aussi chez les paysans et les paysannes qui souhaitent ne pas voir l'installation de ces bassines, et puis des militants de l'environnement et des habitants et des habitantes, bien évidemment. Alors ce qu'on apprend avec Libération dans ces articles, c'est qu'il y a un groupe dédié, une cellule de gendarmes qui a été constituée à la section de recherche de Poitiers, c'est dans la Vienne. Alors d'habitude, cette section, elle est chargée plutôt de la grande criminalité, hein. Donc là, elle s'occupe des militants et militantes anti-bassines. Il faut savoir qu'après les manifestations, la police scientifique a cherché tout un tas de preuves sur les lieux de manifestation. C'est ce que nous raconte Libération. C'est-à-dire tous les restes. Hein, tu as perdu, comme on a ça s'est raconté dans ces articles, ton bonnet ou ton couteau, ben ça a été récupéré pour rechercher de l'ADN dessus. Tu avais collé des autocollants, tu as laissé tes les trucs pour faire de la fumée, voilà. Et il paraît que même un trognon de pomme a été récupéré par la cellule des Képi. Ce que nous raconte quand même Libé, hein, c'est qu'il y a donc toutes ces mises en place de recherche de génétique ADN, qu'il y a évidemment assez classiquement de l'étude des factures de portable, ça, hein, c'est facile aussi, de la géolocalisation en temps réel, qu'il y a aussi eu des demandes auprès d'un certain nombre d'organismes, c'est-à-dire les impôts, la CAF, l'URSSAF, la CPAM, pour aller chercher des informations sur des militants et des militantes hein, qui sont donc suspectés et qui donc, je vais en venir, sont passés en procès. On se retrouve vraiment sur ce qui s'est passé avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou avec Bure, c'est-à-dire sur une opposition, sur une résistance qui aujourd'hui est largement surveillée au-delà même des procès qui touchent les militants et les militantes. Il faut savoir qu'il y a des filatures qui ont été mises en place pour suivre des suspects et des suspectes, qui paraît même que des gendarmes ont fait des centaines de kilomètres pour suivre des gens. Truc de dingue hein, quand même, hein, voilà. Donc, ce qui est dingue aussi, c'est que ça touche pas que les militants et les militantes qui sont sur place, hein, c'est-à-dire qui étaient dans les champs là-bas et dans la campagne, puisque la cellule d'Ekepi a fait une identification de l'entourage. Hein, c'est ce qu'on appelle un schéma des relations personnelles du suspect et de la suspecte. C'est-à-dire qu'on va aller chercher tous les amis hein, et la famille pour voir si on peut pas trouver d'autres gens suspects hein, dans toute cette affaire. Alors, ça fait dire aux avocats des prévenus, des accusés, Maître Michaud et Maître Huriet, qu'il y a une logique de criminalisation et que le seul fait de participer, je les cite, à ces mouvements anti-bassines est suspect, et il y a une surveillance de tous ces réseaux et un zèle incroyable. Donc, il faut quand même le dire, hein, je veux dire, il y a quand même... on sent que quand même les képis ils se bougent hein. Y a quand même, ils racontent à les avocats qu'il y a un endroit quand il y avait des réunions publiques des collectifs bassines, les képis sont venus et ont noté toutes les plaques d'immatriculation des voitures pour constituer encore une fois donc du fichage hein, c'est ça hein, qu'il faut quand même bien souligner. Et Maître Huriet explique que par exemple on aimerait voir cette débauche de moyens sur d'autres types de dossiers que celui de militants écologistes.
Oui, on pense au criminel qui a attaqué et qui a tué trois Kurdes, que le ministre a refusé de qualifier de terroriste, alors que tes militants, là, anti-bassine, pour Darmanin, ce sont des terroristes, alors qu'eux, ils tuent personne, ils défendent la planète, comme quoi.
Alors, donc là, il y a des procès, aujourd'hui et demain, hein, contre des militants accusés d'avoir saboté ces bassines. Militants qui, vous pouvez retrouver un petit peu les déroulés de la journée, par exemple sur le compte Twitter, hein, mais aussi ailleurs du soulèvement de la Terre, par exemple, qui donc, deux militants aujourd'hui, qui étaient donc accusés d'avoir dégradé la bassine de Cranchaban, c'est en Charente-Maritime. Donc c'est quand même, il faut savoir hein, que c'est des procès où tu risques 5 ans d'emprisonnement, soit 75 000 euros d'amende, hein, c'est pas rien quand même. Alors du côté des militants, on n'a absolument pas dévié de pourquoi les gens étaient sur place ce jour-là, c'est-à-dire se battre contre des projets absurdes et anti-écolo, anti-environnement. Et du côté de des avocats, il y a eu une plaidoirie sur l'état de nécessité, hein, c'est-à-dire que là, c'est une notion juridique qui consiste à autoriser une action illégale lorsqu'elle empêche un dommage plus grave. C'est le but hein, de ces militants et militantes anti-bassines. Donc là, on a le parquet de La Rochelle qui a donc requis 5 mois de prison avec sursis, donc contre les deux militants, et comme il y en a un des deux qui avait refusé le prélèvement ADN, il y a un mois de sursis supplémentaire qui est demandé, hein, parce que ça aussi c'est un droit.
C'est un crime de pas voilà, de refuser qu'on prenne un bout de ton corps.
Donc ils sont, je rappelle juste un jugé pour donc avoir dégradé le 6 novembre 2021 une bassine. Bon ben voilà, et demain vous avez 50 militants et militantes dont plusieurs agriculteurs, paysans, paysannes, qui sont jugés à Niort. Voilà, donc ça aussi c'est à suivre, je voulais suivre de votre côté. Il risque hein, aussi quand même des peines assez importantes. Donc là c'est la plaidoirie des avocats qui effectivement peut faire toute la différence. En tout cas ce qui est sûr c'est que ces militants et ces militantes vraiment ne font pas tête, enfin ne baissent pas la tête et continuent à dire que c'était important de se regrouper pour être tous ensemble. Mais voilà, il y a quand même, il faut le noter, des militants, des militantes et des entourages qui sont extrêmement surveillés et qui sont aujourd'hui fichés.
C'est à toi encore.
Oui, juste pour dire que donc le gouvernement français a décidé encore une fois de d'autoriser les néonicotinoïdes en 2023 pour les cultures de betteraves à sucre. La betterave à sucre, c'est pas celle que vous mangez, hein, c'est celle qui sert donc à la production sucrière. C'est un projet d'arrêté qui a été publié ce mardi 3 janvier. La décision devrait être prise à la fin du mois de janvier, mais on ne doute pas de la réussite hein, de ce nouveau projet. Pour permettre encore une fois des dérogations pour un insecticide qui tue des abeilles, détruit l'environnement. Il fait du mal à la planète. Voilà, et parce qu'il paraît que soi-disant, il va y avoir une crise de la jaunisse comme en 2020, et que donc il faut savoir être prêt. Il faut amener quand même de la prévention du côté des militants et même d'experts scientifiques. Ben, on dit ben, non, c'est pas parce qu'il y a un problème qu'il va y avoir forcément la même problématique en 2020.
Oui, puis qu'à un moment on peut changer de type d'agriculture, ce qui changera aussi le type de problème et évitera d'avoir recours peut-être à ces choses aussi dangereuses.
Oui, et puis qu'a priori il n'y a pas de virus, de réservoir à virus cette année en 2023, que donc on pourrait s'épargner peut-être aussi l'épandage de ce type de produit. Mais encore une fois, c'est pas nous qui faisons les réglementations et les lois.
Oui, et l'agriculteur non plus d'ailleurs. Alors on va parler égalité des droits, je vais faire des droits, pardon, pour les femmes notamment, et je vais faire un bout d'histoire pour arriver au monde moderne. Et on va revenir sur un phénomène assez curieux, c'est la disparition des femmes médecins au Moyen-Âge, alors qu'elles ont eu une existence avant. En fait, à cette époque-là, ça vous donne déjà la fin. Hein. La plupart des femmes qui pratiquent la médecine, on rappelle, la médecine au Moyen-Âge, c'est le début, hein, c'est pas super scientifique, voilà, c'était le début de la médecine, hein. Enfin pas le début parce que la médecine a existé tout au long de l'histoire finalement des Homo erectus, sapiens, Néandertal, tout ça, mais c'est loin de l'image de la médecine moderne qu'on peut avoir en tête, hein, même à cette époque-là, qui est pas si loin que ça de nous d'ailleurs, hein, parce que le Moyen Âge, voilà, c'est 12, 13e siècle, 14e siècle, voilà, notamment 15e d'ailleurs. Alors, en fait, les femmes étaient d'ailleurs souvent sages-femmes, par exemple, ou qualifiées de guérisseuses. Et en fait, en général, quand elles le pratiquaient, elles étaient accusées de sorcellerie, parce que c'était l'excuse facile quand on voulait se débarrasser des femmes. On disait que c'était des sorcières, et on s'en débarrassait. Alors aujourd'hui, pour recomprendre cette histoire, c'est un peu compliqué. Les chercheurs et les chercheuses ont du mal à avoir accès à des sources d'informations importantes et fiables. Donc ils sont obligés de chercher un peu partout. Dans des sources des fois biographiques, dans des écrits, dans des fois juste des récits d'invention, hein, dans des traces administratives, alors de procès notamment, dans des instances religieuses, dans tout ce qui peut. Donc en fait les infos, c'est des miettes qui sont éparpillées comme ça dans tout plein d'archives et qu'il faut aller chercher. Et on remonte après dans l'histoire, on se rend compte de la place des femmes à un moment dans la médecine. Par exemple, on trouve des noms et des prénoms de femmes, donc à l'Ars Medicina de Florence, qui est un traité médical. On se dit, tiens, on est à cette époque-là, 1560, les femmes avaient encore leur place. On cherche un peu plus loin dans une autre école de médecine très célèbre au Moyen-Âge, c'est celle de Salerne, toujours en Italie, hein, qui s'appelle la Scola Salertinata. Nitana plutôt. Là, il y avait des femmes médecins. On retrouve leur nom. Il y a Madame Trotta ou Trotula. Il y a plusieurs fois ce nom. Costanza Calanda. Enfin, il y en a plein d'autres. Donc, on se dit effectivement, à un moment, des femmes ont été dans des écoles de médecine et ont été médecins. Mais en fait, quand tu regardes toute l'histoire, il y a eu des hauts et des bas. On constate dès 1220 que la situation a commencé à se compliquer car est arrivé un système universitaire qui imposait que personne ne pouvait enseigner, exercer la médecine ou un métier médical comme sage-femme par exemple, s'il n'avait pas obtenu l'accord des médecins et du chancelier de l'université. Et c'est le cas notamment en France avec l'université de Paris, enfin en Europe on va dire même carrément. Sinon tu étais excommuniqué. Toi, en fait, t'étais viré, t'avais pas le droit, t'étais accusé. Voilà. Il y a d'autres choses qui sortent, hein, dans les archives qu'on retrouve. Par exemple, toujours sur l'université de Paris. Alors là, en 1322, où on a encore des traces de femmes, mais des accusations qui décrivent que voilà, elles auraient pas dû faire ça. Et alors, il y a aussi des traces qu'on trouve dans les procès. On a Clarisse de Rouen, par exemple, qui a été excommuniée pour avoir pratiqué la médecine et notamment avoir soigné des hommes. C'était une circonstance encore plus grave d'avoir soigné des hommes. Allez comprendre, dans ces états-là ultra-machistes, c'était un peu compliqué. Ça fait penser à ce que, pour le coup, à ce qu'on a aujourd'hui chez les talibans, par exemple. On est exactement dans le même Moyen-Âge, quelque part, malheureusement, alors qu'on est censé être dans une époque moderne. Et on a des condamnations qui tombent comme ça en 1322, notamment dans les archives de l'Université de Paris, on trouve les condamnations de Clarisse de Rouen, mais d'autres qui ont été condamnées. Alors ça concerne pas, enfin ça concerne tout le monde un peu. L'Église catholique participait à tout ça. Participait pourquoi ? Parce qu'au sein de l'Église catholique, il y avait à un moment, de ce que j'ai compris, des femmes de religieuses qui pratiquaient aussi de la médecine. Et bah voilà, l'Église a été convoquée. On leur a dit maintenant, faut vous preniez les mêmes décisions que nous. Et effectivement, l'Église est rentrée à son tour dans une éjection des femmes de tout ce qui touchait aux médecins. Elles ne pouvaient donc plus rien faire. Voilà. Alors il y a un gros livre, hein, je crois, qui existe, qui détaille un peu tout ça. Des recherches dont on parle assez peu de l'éjection de ces femmes de toute la science médicale, des zones de tout ce qui pouvait soigner. Alors c'est il y a une vraie grosse critique, hein, de l'Université de Paris. C'est dans l'idée de dire c'est nous qui contrôlons tout, il faut un diplôme pour être médecin. Alors ça peut être rassurant dans notre époque moderne parce qu'on a on envahit de charlatans. Donc oui, c'est bien d'avoir un diplôme pour être médecin, sauf que ce diplôme, il n'était pas accessible aux femmes. Voilà, c'était ça finalement la plus grosse des problématiques. Donc voilà, tout on apprend plein de choses là, dans ce que l'article que j'ai lu et qui reprend un travail d'une chercheuse sur tout ce qui a pu se passer dans les universités et dans cette Europe du Moyen-Âge, hein, on va dire jusqu'à 1560 à peu près, où où les femmes avaient accès à rien. Alors, est-ce que ça a changé ? Alors, vous me direz oui, on est aujourd'hui il y a plein de femmes qui sont médecins. Alors en fait, ça va venir très doucement en fait le changement. La société patriarcale va être très forte très longtemps. Il faudra attendre le milieu du 19e siècle pour que les premières femmes médecins soient reconnues, c'est-à-dire puissent avoir accès aux études, aux diplômes. Avant, toutes les femmes qui n'avaient pas accès à ces études et qui pratiquaient la médecine, elles l'apprenaient au sein de leur famille parce qu'elles avaient un frère, un père qui était médecin et qui leur apprenait la médecine puisqu'elles n'avaient pas accès aux universités. C'est donc à partir de la moitié du 19e siècle que les femmes vont avoir le droit officiellement de rentrer dans ces universités, d'apprendre. Et il y a un cas d'une femme française un peu précurseur, enfin qui va aider à ouvrir un peu des brèches, c'est Madeleine Bresse, en 1875, elle a 33 ans, elle est déjà mariée, elle a des enfants, donc elle est déjà bien occupée parce que la société patriarcale laissait à la femme gérer tout ça. Elle commence ses études, elle va être une des premières internes. Alors elle n'est pas toute seule à être formée en France, en 1887, quand elle y est, elles sont 114 femmes à être formées. Il y a seulement 12 françaises, parce que ça, la fac parisienne formait toute l'Europe un petit peu. Elle va même faire une thèse, voilà, elle va donner des cours et elle va ouvrir la médecine aux femmes. Donc on se dit aujourd'hui, est-ce que ça a progressé ? Alors si on regarde en 2023, enfin en 2022, c'est à peu près 50-50 la répartition homme-femme chez les médecins. Sauf que quand on regarde les chiffres de plus près, c'est pas si clean que ça. Bon, 41% des femmes des médecins généralistes sont femmes, 42% des médecins spécialistes sont femmes, 71% des médecins du travail sont des femmes. En dermatologie, 67% sont des femmes. En pédiatrie, 64% sont des femmes. En gynécologie, 94% sont des femmes. Donc on se dit, tiens, ouais, c'est un peu inégal, mais ça a progressé. Il y a des métiers un peu plus féminisés que d'autres dans la médecine. Et puis on arrive sur le dernier, sur le plus prestigieux de la médecine, la chirurgie. Et ben là, les hommes ont gardé leur précaré, 14% de femmes seulement. Alors ça, c'est le premier truc qui dit, oui, la discrimination existe toujours, la société est toujours pas égalitaire, mais, il y a d'autres moyens de voir encore plus l'inégalité. Quand on regarde les rôles en dehors de soigner, de soignant ou de soignante, qu'ont les médecins, hommes ou femmes. Chef de service ou chef de pôle, donc chef de service dans les hôpitaux, 11 femmes sur 63. Ah ouais, d'un seul coup, il y en a moins. Hein. Chef de pôle, c'est une autre fonction importante. 3 femmes sur 11 chefs de pôle. 14% des femmes sont professeurs des universités en même temps que praticiens hospitaliers. Sont des femmes, c'est-à-dire que tout le reste, c'est des hommes. Et 3 femmes sur 47 sont doyennes des facultés de médecine. Donc oui, le machisme est encore très présent. On s'approche de l'égalité, mais on en est encore assez loin, mais c'est quand même une belle progression par rapport à ces tentatives d'épuration du Moyen-Âge. Et puis pour terminer sur le droit des femmes, quelque chose qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est le 8 janvier prochain au Bénin, donc les Béninois et les Béninoises vont élire leurs députés, et c'est un peu une révolution au Bénin, puisque il y a des sièges qui sont réservés exclusivement aux femmes. En fait, c'est un cinquième des sièges, donc il y a 109 sièges, il y en a un cinquième qui sont réservés aux femmes. Et le président, qui s'appelle Patrice Talon, il espère que les femmes vont dépasser ce quota. En fait, le but, c'est qu'il y a au minimum voilà, un cinquième de femmes, mais lui, il espère beaucoup que le quota soit dépassé, voire explosé. Alors, ça semble quand même un peu difficile dans ce qu'on entend et quand on lit les journaux du Bénin, puisque les partis politiques ont du mal à s'adapter à ce truc-là. Et la société est ultra machiste, et il y a pas mal de responsables politiques qui disent, mais attendez, qu'est-ce qui se passe si les femmes vont travailler, vont être femmes politiques, elles vont plus pouvoir s'occuper du reste, de la maison, tout ça. Il y a des vrais trucs, discours ultra réactionnaires qui existent, donc c'est pas gagné que ça fonctionne très bien, ou en tout cas... Le changement, il est en cours, il n'est pas terminé. Alors, ce qu'il a en tête, hein, le président béninois, c'est ce que défend. Notamment, il y a une activiste béninoise qui a fait pas mal d'interviews, qui s'appelle Christelle Medao, qui explique qu'il faut continuer à se battre. Et elle dit, il y a aucune raison qu'au Bénin on n'y arrive pas. Il y a des pays comme le Rwanda ou le Sénégal où il y a 50% de femmes qui sont députés dans les parlements. C'est mieux que certains pays européens. Donc voilà, elle défend le truc. Le truc, c'est que voilà, c'est pas gagné. Mais dans cette ouverture et cette bonne nouvelle sur les élections au Bénin, par rapport à celle de 2019, il n'y avait pas d'opposition qui se présentait. Donc là, il y a une vraie progression, c'est-à-dire qu'il y a sept partis, dont trois ouvertement d'opposition qui se présentent, et il y a des places réservées aux femmes. Donc il y a une vraie progression, et j'avais envie de dire un truc positif, de donner une info positive dans cette rentrée, parce que tout n'est pas positif. Et j'avais oublié un petit truc, parce que j'ai pas terminé sur le droit des femmes. Là, c'est beaucoup moins bien. On va en Iran maintenant. Vous êtes tous au courant, hein, de la révolte ou du début de révolution qui a eu lieu en Iran. On n'a pas trop d'infos ces jours-ci sur ce qui se passe, à part celle-là. C'est la police qui a lancé une nouvelle campagne au 1er janvier qui s'appelle « Surveillance ». Et qui rétablit le contrôle du port du voile en Iran dans les voitures. Et donc, elle dit à la police d'aller contrôler si les femmes portent le voile correctement dans les voitures. Ça veut dire que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ça ne sert pas. Ils apprennent pas, en fait, les religieux à la tête du pays. Même les journaux conservateurs, même certains journaux conservateurs proches du pouvoir ont dit que c'était une vraie erreur de faire ça. D'abord, ils rappellent que la voiture, c'est un espace privé, et que dans un espace privé, même s'il y a des vitres à l'intérieur, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est pas du tout un espace public, et c'est dans l'espace public que le voile est obligatoire dans cette théocratie. Donc il y a des critiques de partout, et il y en a qui disent, même chez des journaux proches du pouvoir, mais vous n'avez pas compris ce qui s'est passé en 4 mois là, vous voulez que ça répète encore, voilà. Donc c'est une très mauvaise nouvelle, et puis la répression continue, hein. Il y a des nouvelles personnes, hommes et femmes, arrêtées et puis condamnées. Donc on a eu une nouvelle condamnation à mort il y a quelques jours, voilà. Il y a eu alors une actrice un peu célèbre qui est sortie de prison, mais en dehors de ça, les arrestations, enfin les condamnations à mort continuent, notamment sur le motif qui s'appelle Moharebe, qui veut dire que t'as pas respecté Dieu, et c'est les peines les plus lourdes, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de condamnations à mort. Enfin, il y en a petit à petit. L'association ONG, enfin l'ONG qui s'occupe des droits humains en Iran, a au moins 100 manifestants et manifestantes qui risquent la peine de mort, mais en fait le chiffre est sûrement sous-estimé, puisque c'est les familles qui disent, qui expliquent ce qui se passe en termes de justice, et il y a une pression énorme pour que tout le monde se taise. Voilà, donc la situation en Iran n'est pas très bonne, toujours pas.
On a pu voir sur les réseaux sociaux qui sont utiles pour ça. Des manifestations extrêmement importantes et hors de Téhéran. Et ça, c'est aussi ce qui montre la force de cette mobilisation et de cette rébellion à travers vraiment à travers l'Iran, vraiment sur tout le territoire. On a vu des manifestations extrêmement importantes, non pas en ville, mais sur des petits chemins caillouteux. Et ça, c'est une force extrêmement inquiétante pour le pouvoir iranien. Et c'est pour ça qu'il y a toujours beaucoup d'arrestations, parce que effectivement, arrêter des gens, comme on avait pu voir il y a quelques années en arrière, en train de manifester à Téhéran avec une diffusion internationale, c'est une chose. Mais là, savoir qu'en plus, il y a une rébellion, même dans des zones plus petites et dans des plus petites villes, même dans des zones rurales, ça, c'est beaucoup plus inquiétant, et c'est plutôt aussi une réussite pour ceux et celles qui aujourd'hui sont dans la rue en Iran. Alors, on va terminer avec petite affaire licenciement, hein, un petit peu de lutte aussi. Je voudrais juste dire, parce que j'en ai parlé il y a pas très longtemps, que cette semaine ont eu lieu des rassemblements, par exemple comme devant l'usine de Très en Seine-Maritime, des usines de Sanofi a eu lieu, donc il y a eu des rassemblements cette semaine en soutien des élus cégétistes qui, si j'ai tout compris, ont reçu des convocations en décembre pour des entretiens disciplinaires cette semaine, des entretiens disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à des licenciements. Oui. Et qu'est-ce qu'on leur reproche à ces élus cégétistes ? Eh ben, d'avoir participé à une grève au moment de la négociation annuelle. Et que ça, c'est pas bien. Oh, c'est très vilain. Donc voilà, il y a toujours du mouvement chez Sanofi. Et en plus de ça, il y a de la répression syndicale. C'est magnifique. Mais on n'en attend pas moins de la part de la direction de Sanofi, qui sait faire. Belle expérience aussi. Mais il faut dire qu'en face, il y a aussi de l'expérience du syndicat quand même. Donc, ça se répond. Alors, vous avez certainement entendu que l'affaire de licenciement de ce début d'année 2023, c'est Amazon qui annonce donc la suppression à travers le monde de 18 000 emplois. Alors, ça apparaît beaucoup comme ça. C'est beaucoup. Mais il faut quand même se rappeler que 2022, il y avait 1 540 000 employés Amazon dans le monde. Donc, c'est une multinationale absolument énorme. Donc, 18 000 emplois, ça semble pas grand-chose comme ça, sauf que
quand même.
C'était jamais arrivé. On avait eu l'annonce fin 2022 de ces 10 000 suppressions d'emplois, et là on est passé à 18 000. Allons savoir si au trimestre, au deuxième trimestre 2023, nous allons passer à 22 000. Allons, hop, on peut peut-être augmenter les chiffres. Donc il paraît que c'est parce qu'il y a eu une fuite d'un employé que la direction a dû annoncer plus rapidement les mesures. Alors si tu travailles à Amazon, sache que tu recevras un courrier le 18 janvier prochain. Et puis j'aimerais vous citer une phrase que j'ai lue dans la presse qui dit « Soyez attentifs et attentives, s'il vous plaît. Amazon, qui a vu son bénéfice net baisser de 9% sur un an au troisième trimestre, anticipait en novembre une croissance anémique au regard de ses standards, comprise entre 2 et 8% sur un an, et un bénéfice opérationnel compris entre 0 et 4 milliards de dollars, contre 3,5 pour la même période de 2021. Avez-vous bien entendu la petite chose importante dans cette phrase ? C'est au regard de ses standards.
Ah bah oui, donc, ils ont un standard de progression énorme.
Exactement. Et la croissance n'étant pas forcément au rendez-vous, Amazon se doit de licencier. Globalement, c'est ça qu'on peut quand même en déduire. Bon, il faut dire qu'il y avait eu beaucoup d'emplois, hein, et qu'à un moment, même la France a aidé, hein, d'ailleurs, tout ça. Voilà, donc ça, c'était l'annonce. Mais je voudrais quand même aussi vous signaler, toujours dans un domaine bien précis, des licenciements qui s'annoncent chez Back Market. Back Market, vous savez, c'est du revendeur, du reconditionné, comme on dit, hein, qui est présent. C'est ce qu'on appelle une licorne de la tech française, hein, présente dans 17 pays. On a une valorisation qui était à peu près 5 milliards d'euros il n'y a pas très longtemps.
Ah, quand même.
Ouais. Attends, c'est un machin qui a quand même réussi à lever 800 millions d'euros depuis sa création.
Ouais, c'est une grosse licorne.
Ah, c'est une grosse licorne. Donc, Back Market a donc annoncé des licenciements. Et alors, moi, j'ai vu ce titre absolument magnifique, comme quoi 2023 s'annonce absolument spectaculaire, je pense. C'est un article du Figaro.fr écrit de la plume de Elsa Bombaron, publié le 2 janvier 2023 et mis à jour le 3 janvier 2023, dont le titre est... Écoutez bien, la pépite française Back Market licencie pour mieux passer la crise.
Ouais, c'est pour mieux passer la crise.
Voilà. Alors, un peu comme Amazon, j'ai noté quand même quelque chose. Alors en France, il va y avoir 63 postes qui sont concernés. Au total, c'est 13% des emplois du groupe qui sont concernés. Il y a déjà eu des licenciements hein, au bureau de New York, Barcelone et Berlin à Pronton. C'est l'AFP hein, qui a sorti les informations. Ce qui est très intéressant, c'est ça. C'est que Black Market se dit en très bonne forme. C'est ce que raconte Black Market. Donc là, on se dit, bah, attends, pourquoi Black Market, si tu vas bien, pourquoi tu licencies ? En plus, on sait que le reconditionné, c'est en pleine expansion. Donc, on se dit, oulala, bah, pourquoi tu licencies ? Mais il paraît que du côté du groupe, on explique, je cite, « Ces suppressions de postes sont comme une mesure de précaution, un choix voulu et assumé par les cofondateurs. » Une mesure de précaution, encore une fois, tout est dans le vocabulaire. Il n'y a pas le feu, hein ? C'est juste qu'il faut être précautionneux. Ah oui. C'est important.
Et donc virer des gens.
Alors, il y a quand même des gens qui sont un peu précautionneux aussi dans leurs articles. Expliquent, bah, en fait, est-ce qu'il n'y a pas quand même des gens qui ont un peu donné des sous, qui ont un peu investi, qui n'ont pas envie d'avoir un peu un retour sur investissement, et que ce ne serait pas ces actionnaires qui auraient demandé à ce qu'il y ait une meilleure rentabilité, que donc bah, peut-être pousser un peu des gens dehors, hein, parce que c'est par là qu'on attaque, hein, par la masse salariale. Ça serait pas mal pour avoir plus de retour sur investissement. Du côté de Black Market, on dit « Mais non, non, pas du tout, c'est une mesure de précaution. » Voilà. Bah moi, je pense que toute 2023 va être une affaire de langage, puisque je vous rappelle que, d'après M. Macron, nous devons travailler, et ne pas avoir de retraite.
Eh bien, il est 20h01, nous avons dépassé légèrement notre...
quota.
Créneau horaire, mais comme il n'y a pas d'émission, nous nous sommes permis cela. Nous vous souhaitons une bonne soirée.
Ça va être trop belle hein, cette année 2023, je te le dis moi. Ouais. Une minute de retard.
Voilà. Les Kenya Info, c'est toujours de la semaine 19h-20h ou quasiment tous les jours.
Vous pouvez nous réécouter ?
Ah, en plus sur les blogs, vous tapez blog Radio Canu et c'est magique.
Et d'ailleurs, vous pouvez réécouter tout plein d'autres émissions si vous les avez ratées de Radio Canu, ou ça peut vous permettre d'en découvrir d'autres. Nous, de notre côté, on vous dit à la semaine prochaine. On va vous laisser en compagnie des fabuleuses bandes musicales de Radio Canu.
Bye bye.
Ciao.